Je voulais qu'on parle de la Chine, puisque à peine le président Macron reparti, la Chine a repris ses habitudes et l'habitude de la contrainte par la force. Ce samedi matin, la télévision chinoise indiquait que des exercices militaires avaient été lancés dans le détroit de Taïwan, exercice consistant à se concentrer sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l'espace aérien et de l'information afin de créer une dissuasion et un encerclement total de Taïwan. Je cite la télévision chinoise. Est-ce une réponse directe à l'entrevue entre la présidente taïwanaise et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants américains, Gérard Carrérou?
Vous savez, quand il y a une guerre, et on a une guerre depuis un an en Ukraine, une guerre peut en préparer une autre. Il ne faut pas sous-estimer du tout ce qui se passe effectivement autour de Taïwan. Parce qu'effectivement, beaucoup d'observateurs nous disent que de toute façon, la Chine ne veut pas la guerre, que la Chine a une autre stratégie, etc. Moi, j'ai quand même tendance à regarder un peu ce que disent les militaires américains. Et ce qu'a déclaré le 1er février, il y a deux mois, un des grands généraux du Pentagone, qui s'appelle Mike Minihan, qui a occupé de très grandes fonctions, y compris celles dans la zone Pacifique. Il dit ceci, je le cite pour ne pas dire autre chose. « J'espère me tromper, mais mon instinct me dit que nous allons nous battre en 2025. » C'est une circulaire assez subordonnée, officielle. Et il dit, dans une circulaire interne datée du 1er février, il a ordonné à ses forces de se tenir prêtes pour un conflit entre les États-Unis et la Chine dans les deux prochaines années. Xi a assuré sa réélection et mis en place son conseil de guerre. Les élections présidentielles à Taïwan auront lieu en 2024, l'année prochaine, et lui fourniront un prétexte. Les élections américaines auront lieu en 2024 également, et elles vont distraire l'attention des Américains. La raison et l'occasion seront toutes alignées pour 2025. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre à la lettre ce que dit ce général américain. Ce que je pense, c'est que les Américains ont fait un certain nombre de provocations dans la dernière période, et notamment le voyage, on l'a peu évoqué parce que c'est pas notre politique à nous, mais le voyage de Nancy Pelosi, qui était la chef effectivement des démocrates à la Chambre des représentants américains, et une figure
même
très
présidente.
Importante, la présidente. Oui. C'est, Nancy Pelosi, c'est une vraie provocation.
Elle est partie à Taïwan. Hein.
Elle est partie à Taïwan.
Bon. L'été dernier.
Il y a eu depuis, ça n'a cessé, la tension ne cesse de monter entre effectivement Taïwan et la Chine. Et attention à toutes ces déclarations un peu prématurées sur la Chine a une autre stratégie, la Chine ne veut pas la guerre, etc. Méfions-nous du dormant. On disait qu'elle était, pendant longtemps, on a cru que la Chine dormait, et puis elle s'est réveillée, comme a dit Alain Perfit. Aujourd'hui, la Chine est réveillée, y compris militairement. Donc, il ne faut pas sous-estimer les manœuvres qui sont en cours depuis ce matin.
Ce qui recoupe tout ce que tu viens de dire à propos du Chief of Staff de l'Indo-Pacifique, le général américain, c'est que l'une des priorités de la Chine et du nouveau mandat du numéro 1, Xi Jinping, est de changer le statu quo de Taïwan. Et sa gesticulation maritime à tir de balle réelle que vous venez de décrire, Pierre,
non mais tu sais,
fait partie d'une stratégie très précise qui va s'accentuer par rapport aux élections présidentielles et législatives de 2024. C'est pour influencer le résultat de ces élections que cette gesticulation maritime et militaire va s'accentuer. D'autant que les Américains, de temps en temps, on ne le signale pas, justement, parce qu'on ne suit pas avec attention ce qui se passe comme gesticulation dans le Pacifique, c'est que les Américains envoient deux porte-avions, l'un de 94 000 tonnes et l'autre de 107 000 tonnes, le Roosevelt et le Ford autour de Taïwan. Et donc, de toute façon, c'est une gesticulation militaire sans cesse, qui ne cesse absolument pas. Alors, est-ce qu'il y aura une escalade vers la guerre? C'est possible, on ne peut pas l'exclure.
On retrouve à ce niveau le problème entre la Russie et la Chine. Alors, la Chine, effectivement, qui s'attend, qui voit bien ce que Charles appelle les gesticulations militaires, alors la Chine ne veut pas d'une Russie affaiblie, parce qu'elle a besoin de la Russie si elle est attaquée, pour affronter les Américains. Par conséquent, tout s'explique par là. On n'obtiendra pas de si qui disent quoi que ce soit contre la Russie. Il peut à la rigueur rappeler à la charte de l'ONU, mais toutes les mesures, toutes les tentatives pour lui faire dire « Ah ben non, finalement, je n'aiderai pas la Russie », non, il a besoin d'une Russie forte pour résister, pour résister à l'Amérique. Par conséquent, il n'y a peut-être pas de livraison d'armes de la Chine à la Russie, encore que, comme vous savez, le président Macron s'en est préoccupé. Enfin, ça, je suppose qu'on le saurait. En tout cas, la Chine est partisane d'un multipolarité, d'une multipolaire et d'une multipolarité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'ils ont dit que l'Europe était un pôle et devait rester un pôle indépendant des Américains.
Catherine Ney.
Oui, moi je crois que quand on parle de l'Occident face à la Chine ou la Russie, moi je crois que ce qui fait la grande différence, et c'est pour ça d'ailleurs que d'un côté il méprise, c'est que vous voyez que Xi Jinping, c'est la durée qu'ils ont pour eux. Il est déjà au pouvoir depuis 13 ans. Il vient d'être réélu pour 5 ans et il conspire à y rester à vie. Voilà. Et c'est sûr que lui, quand il a dit à son ami, quand il a parlé de son amitié sans limite pour Poutine, il lui a dit des changements comme nous n'en avons jamais vu depuis 100 ans et c'est nous qui les pilotons. C'est-à-dire que lui, il se sent le maître du monde. Et dans le fond, il a tout à fait le temps pour lui. Il a déjà connu 3 présidents de la République. Poutine, il en a connu 4 et ils seront toujours là, quels que soient les nouveaux qui vont arriver et qui ne sont là pour eux que des fétus de paille qui passent, auxquels on fait des risettes, et c'est sans importance. Et cette durée, c'est une chose qui, dans leur esprit, change tout par rapport aux démocraties qui changent sans arrêt. Et c'est ça leur force.
Une pause et on revient avec les grandes voix dans un instant avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve et Michel Cotta et Catherine. Et à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou. Charles, vous vouliez revenir sur la question de la Chine et de Taïwan. Et surtout de Chine.
Non, mais surtout, enfin, on s'est attardé sur Taïwan, on s'est attardé sur la guerre.
Parce que c'est l'actualité du moment.
Oui,
voilà.
En Ukraine, etc. Mais pour Pékin, la guerre en Ukraine participe de la fin de l'hégémonie de l'Occident sur les relations internationales et de sa domination. C'est la raison pour laquelle elle appuie de toute façon les Russes. Mais je pense qu'elle a... Car la guerre va durer. Vous savez que le porte-parole du Kremlin, au cours d'un verre, au moment des fêtes de fin d'année, a annoncé à la plupart des participants de ce verre que la guerre durerait au minimum 4 ans, et sinon 5 ans en Ukraine. Bon, la presse anglaise s'en est faite l'écho. Mais la Chine, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau justement de sa politique étrangère, avance pour étendre son influence par la politique du partenariat. Et vous savez qu'elle a créé avec la Russie et l'Inde l'organisation commerciale de Shanghai, qui apporte un certain nombre d'appuis économiques, financiers, à tous ceux qui y adhèrent. Or, quand vous voyez qu'au Moyen-Orient, elle a fait une OPA absolument incroyable qui fait que l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres sans doute des pays des Émiratis vont tous adhérer à l'organisation commerciale de Shanghai. Ça y est, c'est fait. Et cette extension qui déjà a de l'influence sur la plupart des pays d'Asie devient considérable et prend des parts de marché très importantes aux Occidentaux.
Oui, pour poursuivre dans la voie que vient d'ouvrir Charles, il me semble qu'on a eu un changement de paradigme, parce que pendant les années d'après-guerre, pendant 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu dans un monde où il y avait deux blocs. C'était du bloc à bloc. Le bloc dirigé par les Soviétiques, l'Union soviétique et tous ses satellites, avec des traités militaires, le pacte de Varsovie, etc. Et en face, on avait un bloc qui était symbolisé par l'Amérique et ce que l'Amérique avait suscité, c'est-à-dire l'OTAN, etc. Aujourd'hui, le monde se constitue. Il y a effectivement... la différence, c'est entre les Occidentaux qui ont un mode de vie. Les Occidentaux, ça veut dire très précisément l'Amérique du Nord, Amérique, Canada, ça veut dire l'Europe occidentale et maintenant presque toute l'Europe, et éventuellement quelques vassaux dans le reste du monde, l'Australie par exemple en est un, et il y en a quelques autres. Et en face, on a, et c'est ça que la Chine est en train d'essayer de fédérer à travers des alliances, elle a réalisé ce qui autrefois était le rêve de Nasser ou d'un certain nombre de grands leaders du tiers-monde, c'est-à-dire les non-alignés. La Chine rassemble autour d'elle des alliés, pour l'instant, des vassaux comme la Russie, et le monde des non-alignés, dans lequel il y a la plupart des pays, une bonne partie des pays africains, une bonne partie des pays du sud de l'Amérique et d'autres.
C'est pourquoi ils demandent quand même
Michel Cotta.
Sur le refus de notre mode de vie, sur le refus de notre décadence.
En attendant, c'est vrai que nous avons découvert, nous tous d'ailleurs, à l'occasion de cette guerre, que l'Occident était quand même... que sa voix était limitée et qu'autour de l'Occident, il y avait les BRICS, etc. Et au fond, c'est presque une découverte. On était persuadés, nous, on était dans le monde de l'OTAN.
Brésil de Lula va adhérer à l'organisation commerciale
de
Shanghai.
La
plupart des pays qui se rassemblent autour de Shanghai, de l'OCS, sont presque tous des pays plutôt totalitaires, libertés publiques, les libertés d'expression n'existent pas. C'est une des caractéristiques de ce nouveau monde.
Que fait la police? Je veux dire, il n'y a pas de gendarmes du monde. Que fait
Qu'il faille un nouvel ordre international, c'est évident.
De toute façon, qui alimente toute la...
Mais est-ce qu'ils seront suffisamment puissants pour stopper cette hégémonie?
Mais sûrement pas.
J'ai entendu sur une chaîne d'information de télévision que les Ukrainiens cachaient un certain nombre d'opérations aux Américains. C'est à mourir de rire, Toutes les opérations sont centralisées à Ramstein, à la base américaine.
En Allemagne.
Tout part de là, de toute façon, la conception et l'action et le matériel.
Tu admettras que l'Amérique, malgré sa puissance militaire indiscutable et son leadership technologique militaire, ne peut pas intervenir sur tous les chantiers du monde, sur tous les
territoires. Mais nous n'avons aucun intérêt
à ces intérêts de la Chine. La Chine, pendant ce temps-là, travaille sur tout le reste du monde, tous les chantiers de guerre possibles et imaginables. Et c'est pas dit que dans cette confrontation, nous soyons pour l'instant les mieux placés. Surtout pas en étant vassal de l'Amérique, comme on le fait quand on se présente avec le président Macron et son commissaire politique, Madame von der Leyen, pour aller rencontrer les Chinois.
Catherine n'a pas parlé.
Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on essayait de se consoler en disant Poutine est seul. Et moi, je me dis, il n'est pas seul. Et il y a quand même une image qui m'a frappé, c'est qu'il ait reçu tous les chefs d'État africains et quand même envoyé cet aréopage de président auquel il a remis épongé leurs dettes. Vous n'avez plus de dettes. Donc, il se crée aussi des comme ça. Et puis, comme ces pays africains ont besoin de la Russie pour nourrir leur population, eh bien, même s'ils ne votent pas contre la Russie à l'ONU, ils s'abstiennent.
On voit bien comment il faut...
Le temps qui vous est imparti, chère Grande Voix, est terminé. C'est comme ça. C'est la musique maintenant. C'est The Fool, c'est Jane. C'est le premier single du nouvel album qui sort le 21 avril.